我已经见树已成，我也不能斩绝人伦之情，务必小心防备。
Bonjour à tous et bienvenue sur Estasia.fr pour notre 33e podcast consacré, après nos émissions sur le Japon et la Corée, au cinéma chinois, entre l'événement haussienne, à la fois dans les salles avec The Assassin et à la Cinémathèque française, une visibilité assez importante de films en ce moment en salle, en DVD et sur Netflix, de nouvelles de vieilles connaissances comme John Woo ou Herman Liu, et l'importance de plus en plus dominante du box-office local sur le cinéma international, on a beaucoup de choses à vous dire sur le cinéma chinois, hongkongais et taïwanais. Alors pour commencer, comme on est très nombreux autour de cette table, je vais vous demander ce que vous pensez du cinéma chinois, quelles sont vos impressions sur le cinéma chinois contemporain en 2016, en une phrase ou deux pour lancer quelques pistes que nous allons explorer ensuite dans ce podcast. Bonjour Yannick.
Salut.
Alors quelles sont tes impressions sur ce qu'est le cinéma chinois aujourd'hui ?
Bah, en fait, le cinéma de Hong Kong me manque. Je veux dire, on a de très bonnes choses à l'heure actuelle, mais je trouve qu'on perd la folie qu'on avait avec les syndicats du crime et autres.
C'est bien, et c'est notamment un sujet qu'on va évoquer, puisque de nombreux réalisateurs, dont Herman Liu, dont John Woo, dont Tsui Hark, ont des projets en cours dont on va parler. Kefren, bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est ton avis, tes pensées sur le cinéma chinois d'aujourd'hui ?
Le cinéma chinois, moi surtout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le jeune cinéma chinois, justement comme on peut le voir avec Kylie Blue, qui est ultra prometteur et ultra vivant en fait, comparé à d'autres jeunes cinémas.
Très bien, bah, c'est aussi, ça va être une thématique que nous allons évoquer. Bonjour Samir.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Alors, quelles sont tes premières impressions comme ça, des pistes de réflexion sur le cinéma chinois d'aujourd'hui ?
Je ne suis pas très au fait de l'actualité du cinéma chinois d'aujourd'hui, ce qui ne m'empêche pas de voir un peu ce qui se passe, malheureusement ce qui sort en France, donc ce n'est pas forcément représentatif du cinéma chinois. Mais en tout cas, s'il y avait quelques adjectifs à utiliser, ce serait... un cinéma assez exigeant et très expérimental. Enfin, j'ai toujours eu cette impression-là. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément, je suis pas quelqu'un qui va dénicher la pépite. J'attends, comme un paresseux cinéphile, de recevoir les films en France. Mais ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'est et puis on en parlera avec Monsieur Ocean, etc., etc. Mais
Tigre Dragon 2,
ou Ocean Eleven. Enfin, voilà, donc c'est très expérimental.
Bonjour Martin.
Bonjour, bah écoutez, pour moi c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que d'une part le cinéma, on va dire d'auteur, je le connais assez mal, c'est-à-dire que je me déplace très souvent en salle pour aller le voir malheureusement, à ma grande honte, hein. Mais bon, je connais un peu certains films de Louillé en effet, par contre, ce que je vois du cinéma populaire chinois, il y a une certaine mutation qui est en train de s'opérer. Et en tout cas, il y a des genres prédominants qui sont en train de revenir, ou du moins qu'on pensait un peu presque bannis. Enfin, il y a une espèce de resurgence d'une espèce de cinéma populaire à effets spéciaux, où ils réactualisent certains grands mythes, des choses comme ça. Bon, on en a vu récemment à The Monkey King numéro 2, et bon, il y a je ne sais combien de versions qui arrivent, dont la version de Sueur qui doit sortir au courant de l'année. Oui, qui est produit par Stephen Chow. Et oui, les gros succès populaires sont des espèces de gros mastodontes qui explorent justement tout ce folklore, quoi. Mais on ne les voit pas, et, ni en DVD, ni en Blu-ray, et encore moins en salle. Donc c'est un peu dommage.
Et ça, on va en parler aussi de la distribution de ce cinéma populaire, puisqu'on a accès effectivement à un certain cinéma d'auteur. Mmh. Le cinéma populaire, c'est déjà beaucoup plus compliqué, et donc ça, on va en discuter. Mmh. Elvire, bonjour Elvire.
Bonsoir,
bonjour.
Les deux marches.
Pour compléter ce que disait Martin sur le cinéma populaire, on a la catégorie qui sera peut-être davantage hongkongaise en fait, qui reprend tous les grands mythes fondateurs de la Chine. Et il y a aussi celle de la Chine continentale, le cinéma populaire, qui est un peu différent. sera plus de la comédie romantique ou pas, on ne sait
c'est
pas
ce
trop.
Qu'on peut voir au festival du cinéma chinois. C'est compliqué.
Ce qui fonctionne, qui fonctionne vraiment au box-office, mais qui est juste mauvais. Pour les trois quarts du temps.
Au box-office chinois, donc.
Oui, oui, parce qu'ils ne sortent pas en salle chez nous, de toute façon, et heureusement. On a quand même, une fois par an, l'occasion de les voir.
On a Camping 3 qui arrive, donc.
Et les Visiteurs 3.
Ouais, les Visiteurs 3.
Oui, voilà, on a chacun notre cinéma populaire de comédie qui est nul, quoi. Mais du
on
coup,
a chacun nos navets, parce que le cinéma populaire, c'est pas forcément mauvais.
Oui, non, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, mais de ce qui fonctionne au box-office, en fait, dans le cinéma populaire, il y a des très bons films, mais aussi de très mauvais films.
Beaucoup de navets.
Et là, en tout cas, côté comédie chinoise, c'est pas très bon. Alors, le cinéma hongkongais attrape un petit peu la donne et j'ai pas vu grand chose, donc je peux pas non plus. Je peux pas juger, mais j'ai pas. Parfois ça rattrape, parfois c'est pas génial non plus. Mais du coup, on a quand même deux. Enfin, les deux territoires sont encore distincts, je trouve, de la Chine continentale ou Hong Kong.
Bonjour Jérémy, comment vas-tu?
Bonsoir, bah ça va, écoute. Je voulais juste rajouter que, en fait, je suis pas très au fait non plus comme Samir, mais. Mais j'ai l'impression
de. Personne ne nous fait ce soir.
Mais j'ai l'impression de. J'ai l'impression d'une grosse industrie qui est bien en marche là et une sorte de d'hollywoodisation quoi, je sais pas de quoi, vu d'ici j'ai l'impression de voir des gros projets, des gros films qui se mettent en route et des gros succès au box office comme on voit The Mermaid là récemment, et j'ai l'impression d'une sorte de gros monstre qui est en train de se réveiller et qui va peut-être commencer aussi à arriver.
Il faut voir la manière dont ça va déferler, effectivement.
Arriver chez nous et dans le cinéma américain. Et dans le cinéma américain aussi.
Il y a beaucoup de coopération. La Chine produit beaucoup à l'étranger.
C'est ça.
Donc
là, on voit que la Chine et l'Amérique commencent à s'acoquiner un peu. Et
la France aussi. Hein.
La France aussi, d'ailleurs. Oui,
on a eu des très beaux exemples.
Donc voilà, on va voir comment ça se goupille. Mais j'ai l'impression vraiment d'un gros monstre qui se réveille et que je pense que ça aura des répercussions sur le cinéma mondial. Dans quelques années.
Bonjour Justin.
Bonjour. Et donc pour rebondir sur ce que disait Jérémy sur la coopération, enfin le pouvoir un peu sur le cinéma mondial, surtout américain, du cinéma chinois, j'ai un exemple, c'était par exemple DreamWorks, donc l'année dernière, ils ont licencié quasiment une bonne partie de leurs salariés de leur studio d'animation pour l'exporter en Chine, et Kung Fu Panda, là, qui va sortir prochainement, c'est un film à moitié de nationalité chinoise, donc pour faciliter la sortie là-bas, donc on voit la démarche, voilà, ils sont précurseurs, mais c'est peut-être une démarche qui va se généraliser prochainement, donc c'est un film chinois, donc il y aura plus de, au niveau de la distribution par exemple, je pense qu'il y aura plus d'ouverture du fait de cette moitié de nationalité chinoise par exemple.
En fait, on va bientôt voir beaucoup de films chinois sans même le savoir. Bonjour Elias.
Bonjour. En fait, moi, pour revenir sur ce que dit Jérémy, je connais plus le cinéma chinois par les chiffres et les box-office que par le cinéma en tant que tel, même si j'en vois de temps en temps. Et en fait, justement, je trouve que c'est un cinéma qui, certes, marche beaucoup et qui sort des chiffres et des bénéfices assez hallucinants. Cependant, moi, je m'occupe beaucoup du box-office donc de Chine, Corée, Japon, et autant le box-office chinois, non, le box-office coréen, japonais s'exporte, autant celui chinois a l'air très, pour l'instant, national. The Mermaid, qui est un carton énorme, on en parlera plus tard, ne s'est pas du tout exporté dans les pays alentours, alors que des films comme Assassination s'étaient exportés en Chine, par exemple. Justement, c'est à voir si le cinéma chinois est-il vraiment très national ou s'il peut quand même s'exporter malgré tout.
Alors, juste pour rebondir là-dessus, comme c'est un débat qu'on va avoir, on peut garder des cartouches aussi.
Mais j'ai l'impression qu'il faut surtout un grand auteur ou un genre assez populaire comme le Wuxia Pian, qui est quand même relativement populaire en France. Ou un grand auteur comme Tsui-Hark ou Sien pour que ça arrive jusqu'à nous, pour que ça s'exporte. Mais voilà, les comédies, comme disait Elvire, les grosses, bon, déjà que c'est mauvais.
Oui, non, c'est pas grave si ça s'exporte pas.
Mais bon, voilà, c'est mauvais, mais bon, ça pourrait sortir. Il y a d'autres pays qui nous envoient des trucs pas terribles, mais apparemment c'est très.
Mais les comédies pourraient. Alors je sais pas si Elias saura me répondre, si les comédies chinoises sortent par exemple en Corée, puisque souvent. Il y a des stars de K-pop en fait au casting de comédies chinoises.
Bah, je peux te répondre. Et en fait, le seul film, je crois, chinois que j'ai vu dans un box-office non chinois, C'est un film d'animation sur trois ours qui s'appelait, je sais plus quoi, c'est The Boonie Bears, qui était genre 9e en Corée.
Il n'y a pas de star de K-pop.
Qui était genre 9e en Corée une semaine, ou je crois que
c'était peut-être un film. Peut-être une voix. Je ne sais pas.
Ou genre un film qui a fait genre 90% du box-office, du coup le reste c'était que des films qui n'avaient rien fait.
Ouais, peut-être qu'ils sortent, mais qui ne sont pas forcément bien classés.
Ils sortent sûrement en Corée, mais en tout cas. Peu de gens
parce
les voient.
J'ai l'impression qu'il y a une sorte de brassage en fait.
Peu de gens les voient. Enfin,
voire parfois non, des japonais c'est pas dans le top 10. Casting.
Par contre, ce qui est vrai, c'est que les certains studios justement comme coréens, comme CG et tout ça, commencent à faire des coproductions avec la Chine. Non, parce qu'il y a un marché énorme là-bas et voilà, ils sont obligés d'aller.
Par rapport à ce que dit Jérémy, c'est vrai que ça va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'il y a donc, ce réveil et cette vague qui peut déferler effectivement du cinéma chinois. Mais c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire que Hollywood ou les pays aux alentours visent ce marché chinois qui a un énorme potentiel de spectateurs et donc de dollars.
Mais c'est pas complètement nouveau. Je sais, dans les années 2000, il y avait un film, le film Mujal à la princesse du désert, c'était une coprode. Il y avait Zhang Ziyi, puis c'était un film coréen, Zhang Ziyi dedans.
Mais c'était un projet, quoi.
Oui, c'est vrai qu'après, je sais pas s'il y en a eu d'autres, si ça a été suivi, mais bon.
Non, mais il y avait des actrices chinoises dans les films coréens au début des années 2000. Par exemple,
Félan, hein.
Il y a My Wife is a Gangster 3 et l'actrice c'est
Chou Ping. Ouais.
Pour gagner aussi des parts de marché.
Non, Félan aussi, c'est Xia Cheng qui joue le rôle principal.
Bonjour Marc.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Quelle est ton impression sur le cinéma chinois?
Moi, je connais surtout le cinéma chinois par rapport à des grands noms qui sont distribués hors de Chine, qui sont distribués en France, donc tous les cinéastes très très classiques, ou Xiao Xian, ou Zhang Yimou, tout ça. Et également le cinéma de genre hongkongais avec les fameux polars ultra-vitaminés. Et c'est vrai qu'il y avait une petite hype à la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000 justement sur tout ce nouveau polar qui fonctionnait vraiment très bien, notamment les films de John Ito qui cartonnaient pas mal en France d'ailleurs, qui étaient plutôt bien distribués pendant un petit bout de temps. Et maintenant tout ça s'est un petit peu arrêté, ou alors ça continue mais on n'est pas au courant quoi.
Donc ça n'arrive pas jusqu'à nous. Ouais.
Donc c'est vrai, ça n'arrive pas jusqu'à nous. Donc j'espère que le cinéma chinois va s'exporter encore un peu mieux pour qu'on puisse voir de plus en plus de films. Il y a aussi, on parlait des grands noms et de la grande industrie, mais il y a également le cinéma chinois indépendant qui parfois est un petit peu distribué en France. Je pense au festival qui organisait tous les deux ans, ou au cinéma des Ursulines où il passe.
Festival Shadows.
Voilà, le festival
Shadows. Ils ont organisé le festival du cinéma. Il a organisé le festival du cinéma indépendant chinois en France, qui est en fait une redite du festival du cinéma indépendant qui se tient en Chine chaque année. Ils l'ont fait cette année en février, en fait, pendant quelques jours. Il y avait donc du cinéma indépendant.
Ouais, effectivement, enfin, on voit des bons films.
Il y a des bons films.
Je n'en sais rien, je ne sais pas.
Il y avait des très bons.
Ah, c'est une affirmation.
C'est vrai qu'ils sont assez axés sur les documentaires. Il y a vraiment de très bonnes choses, donc c'est plutôt prometteur. Après, évidemment, ce sont souvent des films qui sont tournés dans des conditions matérielles un petit peu précaires, mais bon, au moins ils font avec des moyens du genre.
Et même les rares bons films qu'on voit au festival du cinéma chinois, c'est des films indépendants. Genre cette année, il y avait eu Blind Massage, là,
c'était à peu près le
seul truc regardable du lot.
Non, qui est bon.
Le reste était. Oui, voilà, mais tueur, c'est pas un dé, quoi.
C'est une avant-première.
Ah bon?
Et enfin Nicolas.
Bon, moi je regroupe à peu près toutes les pensées de mes camarades.
Facile,
je suis assez. C'est le jeu. Non mais moi je suis comme Yannick, moi j'ai envie de revoir un peu les films hongkongais et revenir en France au cinéma. Je suis un peu nostalgique de ça. Et puis Simon, c'était pour dire que tu parlais de Yang Yimou tout à l'heure, c'est vrai que et tu parlais d'incoquinance avec les États-Unis. Bon, on avait eu Christian Bale qui avait joué dans Flowers of War par exemple. Est-ce qu'il va y en avoir de plus en plus des films comme ça qui vont arriver avec des stars américaines qui vont jouer dans les films?
Qui n'est pas sorti en salle.
Et qui n'est pas du tout sorti en salle d'ailleurs, et qui est très bien.
Une distribution vidéo tout de
même. Oui, mais par contre, celui qui a fait juste après, qui était L'amour sur l'aubépine, qui est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Et voilà, il n'est pas sorti. Et Shang Yimou a même fait un remake de 100% des frères Cohen.
Mais c'est un truc
improbable. Un truc improbable, mais qui est assez réussi.
J'ai entendu parler.
Qui est sorti aux États-Unis en Blu-ray avec des sous-titres français. Et par contre, rien chez nous.
Bon, et par contre, on a vu quand même le dernier film de Zhang Yimou.
Oui, mais parce qu'il y a Gong Li.
Parce qu'il y a Gong Li et parce qu'il a eu une sélection à Cannes, hein, il me semble.
Oui, il y a Gong Li. Un gros film là avec Adrien Brody aussi.
J'ai voulu rajouter un truc, c'est que.
Si, il y a un gros film chinois.
Ah, si, c'est avec Jackie Chan.
Ouais. Les deux n'étaient pas d'accord.
Adrien Brody et Jackie Chan. Et donc Nicolas,
ouais, je voulais rajouter par rapport à Jianke, on voit pas mal aussi de films indépendants qui recopient un peu son style en moins bien, forcément. Et j'ai peur aussi un peu qu'il y ait une vague de comme ça de films un peu social qui parlent de la Chine postmoderne, des trucs comme ça. Et j'ai peur qu'il y en ait trop et que les réalisateurs n'aient pas forcément une patte qui soit identifiable.
C'est ce qu'on a vu aux Philippines, justement, voilà, avec Brian Mendoza, où il y a tous les réalisateurs après qui ont essayé un peu d'imiter.
Donc j'espère. Et justement, ce qui est bien, c'est que le film qu'on a reparlé, Kylie Blues, ça commence un peu comme ça. T'as peur que ça retombe un peu dans le film social un peu chiant, quoi. Et au final, ça raconte tout autre chose. Et c'est là que peut-être que se trouve finalement un cinéma plutôt intéressant. Ouais.
Donc, on peut déjà conseiller, si vous n'écoutez pas la suite du podcast, Kylie Blues qui est en salle actuellement.